Lundi soir, les rêves sont terminés et il est 21h45. Mais nous avions pourtant rendez-vous à 21h30 à la maison de quartier avec le groupe d'habitants des Eaux Vives. Heureusement, ils nous ont attendus. Pour commencer, nous leur avons demandé de nous faire un petit historique de la création et des actions du groupe d'habitants.
Alors bon, je ne fais pas partie des membres fondateurs du groupe d'habitants des Eaux Vives, hein. Mais ce que je sais, c'est que le groupe s'est créé en fait dans les années 70. Autour de la question du terrain du Cèdre, qui était un terrain à l'avenue de Chamonix, et sur lequel était prévu un projet immobilier. Alors les habitants se sont bagarrés sur ce terrain pour essayer d'exiger le maintien de cet espace vert. C'est donc une époque où les associations de quartier étaient très sensibilisées à l'aspect de la qualité de la vie, si on veut. Mais notamment autour de la préservation de certaines zones vertes dans le quartier. Alors le groupe s'est constitué autour de cette question-là, plus des questions de logement, notamment tous les problèmes de la réhabilitation, démolition plutôt de la terrassière. Et là, il y a eu toute une série d'actions que le groupe avait menées sur tout le périmètre de la terrassière, en essayant de maintenir des habitants sur place. Donc il y avait un peu ces deux composantes, logement, maintien des appartements bon marché dans le quartier, et puis qualité de la vie, défense de l'espace vert. Les actions sont venues se greffer là-dessus. Beaucoup des problèmes de défense de locataires à travers le problème des rénovations d'immeubles. C'est-à-dire que dans les années 70, c'est là que se sont transformés et ont disparu une grande partie des appartements bon marché. Alors l'association de quartier a essayé avec les locataires de faire un certain nombre de défenses immeuble par immeuble. Dans la bagarre sur les prolongations de bail, par exemple, il y a des choses qui ont été gagnées. C'est un peu ces problèmes autour des défenses de locataires que s'est créé donc défense d'immeubles et problèmes de rénovation qui se sont rencontrés dans tous les quartiers de la ville, que progressivement s'est discuté la création d'une fédération des associations de quartiers. Et le groupe d'habitants des Eaux Vives a participé à ce mouvement, notamment en essayant de développer la bagarre sur le logement au moyen des occupations d'immeubles. Et peut-être une des bagarres qu'on peut aussi signaler ici, c'est l'occupation des immeubles près de la ville dans le cadre d'un mouvement de relocation forcée qui était mené par les différentes associations de la ville. Saint-Jean, les Paquis, et puis l'association de la Jonction, et qu'est-ce que j'oublie, plein palais.
Dans toutes ces actions, est-ce que les habitants du quartier soutenaient activement le groupe d'habitants? Comment ça se passait?
Alors je pense qu'un des grands moments de mobilisation, ça a été la bagarre autour du mouvement de relocation forcée. Et puis ensuite, je dirais qu'après cette période-là, c'est vrai qu'il y a eu un moment de repli, c'est-à-dire qu'une fois posé le thème de la bagarre sur le logement et le problème de la rénovation, par exemple des thèmes comme la circulation, comme les parkings qui ont été prévus dans le quartier, ont aussi mobilisé du monde, mais peut-être un peu moins. C'est-à-dire qu'on a passé sur des thèmes qui au départ étaient la qualité de vie, enfin des éléments vitaux comme le logement, mais vitaux, je dirais, dans un ordre que je mettrais au numéro 1, à des problèmes vitaux aussi, mais que je mettrais dans un ordre peut-être un peu numéro 2, qui est dans quel type de quartier on vit, quelle est la qualité de la vie, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la voiture. À la circulation, comment est-ce qu'on modère la circulation, pourquoi est-ce qu'on refuse des parkings au centre-ville. Et ça, c'est des questions qui nécessitent aussi tout un débat sur le développement de la ville. qu'on peut dire, c'est que par rapport à la circulation, c'est un problème effectivement qui touche tout le monde et à plusieurs niveaux, et avec toutes les ambiguïtés et les contradictions de tout un chacun. Alors que le logement posait un problème souvent immédiat, c'est-à-dire que des personnes qui étaient vraiment immédiatement prises, soit par un congé, par un déménagement forcé, soit parce qu'ils n'avaient pas de logement ou un logement trop petit, etc., qui faisait que il fallait donner une réponse quasi aussi immédiate. Et disons, la circulation, la façon de l'aborder pose d'autres problèmes, et bon, peut-être qu'on pourra en venir là-dessus. Mais par rapport à ce que disait Denis, et aussi un petit peu par rapport à la problématique du quartier, à la suite un petit peu de la cohésion qui s'est faite du groupe d'habitants des Eaux Vives sur ces problèmes de logement, par la suite, on s'est retrouvé aussi confronté à une politique d'aménagement plus générale, c'est-à-dire à partir de luttes immeuble par immeuble, logement par logement, etc., on a défini quand même une ligne de qualité de vie, une qualité d'aménagement qui se voulait quand même relativement alternative par rapport à ce qui se fait, disons, dans la République. Et bon, c'est le cas de Villereuse, où effectivement on s'est retrouvé confronté à un projet qu'on qualifie de mammouth, et disons synonyme des années 60, c'est-à-dire des grands immeubles de bureaux, par la suite un peu de logement négocié par le chef du département des travaux publics, mais en fait ce qui n'était pas prévu au départ. Donc typiquement un urbanisme des années 60, et qui, disons, n'a plus rien à faire à l'heure actuelle avec ce que les gens pensent en matière d'aménagement. Et là, disons, sur ce type de lutte, c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que dans ce périmètre de Villereuse, il y a relativement peu d'habitants qui habitent, donc ça veut dire aussi relativement peu de mobilisation. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui politiquement se trouvent confrontés et trouvent que l'aménagement qui est proposé est vraiment purement spéculatif, une extension du centre, mauvais, tout ce qu'on veut. Et disons, c'est par rapport à une volonté relativement politique de contrecarrer ce projet qu'on se manifeste. Et c'est normal qu'il y ait relativement peu de monde derrière nous immédiatement. Par contre, par rapport à l'initiative qu'on a lancée pour essayer de concrétiser nos idées là-dessus, elle a eu quand même un grand succès, puisqu'il y a eu pratiquement 7500 signatures qui ont signé notre initiative, donc qui demandaient un autre aménagement, donc sur la base d'un contre-projet.
Tu peux peut-être résumer en quelques mots le contenu de cette initiative, savoir en fait que, justement, en quoi votre projet il était fondamentalement différent.
Depuis longtemps, on s'est bagarré contre tous les projets qui se sont succédés, et la dernière issue que l'on avait, donc évidemment, ce que j'oublie, c'est qu'il y a encore une petite maison en haut qui est appelée la maison chèque, 4 étages, une maison d'habitation, 4 niveaux de logement, je crois qu'il y a 4 appartements, ou 5, je ne sais pas exactement. Bref, cette maison, donc évidemment, ça devait se démolir. Là-dessus, il y a aussi tout un mouvement et de personnes qui étaient attachées à cette maison qui voulaient se bagarrer, avec laquelle, disons, on a lancé une initiative pour concrétiser une autre forme d'aménagement plus alternative, c'est-à-dire avec 3 axes prioritaires: le maintien de la maison chèque, la priorité à du logement, donc en balayant tout ce qui est bureau et en reprenant tout le programme de logement qu'il y avait dans les projets Lavizari & Co. On reprenait que la partie logement, c'était une cinquantaine de logements qu'on mettait, nous, sous forme de petits immeubles de bas gabarit. Donc ça, c'était priorité au logement, petits immeubles bas gabarit. Et pour relier tout ça, un cheminement piétonnier qui reliait la terrassière, donc le bas du quartier, à la place Émile Guyonneau, qui est le haut. Et aussi, un autre problème qui s'était greffé là-dessus, c'était la sauvegarde de la maison Clarté, l'immeuble Clarté de Le Corbusier, sur lequel, donc, il y avait aussi un certain nombre de projets qui a collé des bâtiments, et sur lequel, disons, nous, on demandait qu'il y ait une place qui se fasse à côté du mur pignon de cet immeuble, pour au moins qu'on ne construise aucun bâtiment. Alors, c'était ça un petit peu l'histoire du contre-projet, et c'est là-dessus que les gens ont signé, et sur laquelle on a récolté les 7500 signatures.
Qu'est-ce que vous avez comme projet dans le sens de la circulation de vie?
Oui, disons, par rapport, disons, à la circulation, c'est toujours aussi difficile de poser le problème de la circulation par rapport à un quartier. Donc c'est juste qu'on se le pose en tant que groupe d'habitants d'un quartier. Puis d'autre part, c'est aussi un problème tellement général qu'on ne peut pas se cantonner au quartier, parce que souvent on tombe un peu dans les travers de solutions qui font qu'on résout un certain nombre de problèmes sur le quartier, mais en fait on rejette les problèmes ailleurs.
Non, donc, alors... je ne voulais pas parler de parking, mais plutôt de relations de circulation.
Tout à fait. Alors disons, nous, c'est vrai que globalement on est pour la modération du trafic, on est pour une diminution de la circulation en ville, etc. Par contre, on voit qu'il y a un certain nombre de solutions, en tout cas, que les autorités proposent, notamment la ville de Genève, puisque c'est la ville de Genève, et on les a reçus ici, parce qu'ils ont présenté un certain nombre de projets, sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, c'est-à-dire notamment, par exemple, le renforcement des grands axes routiers, qu'ils considèrent comme sacrifiés, et puis on dit on fait de la modération de trafic à l'intérieur du quartier. Si on prend un exemple sur lequel on doit encore discuter, sur lequel on veut aussi avoir une action, c'est l'aménagement qui est prévu dans le périmètre route de Frontenay, chemin de la Clairière, rue du 31 décembre, donc où il doit y se faire le théâtre, la piscine, une annexe, la maison de quartier, etc. Donc là, il y a tout un périmètre où effectivement on va concentrer un certain nombre d'activités. Et on fait des tas de projets, donc la ville fait des tas de projets là-dessus, sur lesquels on peut être d'accord, pas d'accord, etc., mais en se foutant complètement de la circulation. Et tous ces projets débouchent sur un axe routier très important qui est la route de Frontenay. Et disons, quand on a eu la ville de Genève ici, et notamment ses responsables de services comme Annie Stromza et autres, quand on a posé la question de savoir... S'il y avait quelque chose qui avait été entrepris sur la route de Frontenay pour en modérer le trafic, et nous on disait c'est vraiment indispensable, si vous voulez qu'on soit un tout petit peu d'accord avec ce genre d'aménagement, c'est indispensable que sur la route de Frontenay on ait des ralentissements, on ne peut pas lâcher des gens sur cette route de la maison de quartier, du théâtre, etc., sans qu'il y ait je sais pas, des seuils de ralentissement à chaque passage à piéton, un certain nombre de choses de ce type-là qui soient entreprises. C'est pas pensable de penser à avoir un tel aménagement, une telle concentration d'activité. Bon, c'est un petit exemple sur un périmètre, mais disons, nous, ce qu'on réfute, c'est un aménagement qui ferait qu'on privilégie des axes et des pénétrantes à l'intérieur de la ville, comme ça se fait, hein, et les pénétrantes pour nous, c'est clair que c'est la route de Frontenay, c'est la rue des Eaux-Vives, c'est les quais, c'est la rue de Pitet-de-Rochemont. Alors actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que ces voies vont être encore améliorées comme voies à grand trafic. Actuellement, on pense à l'élargissement de la route de Chêne, on pense à l'élargissement de la route de Frontenay en haut, etc. Donc ces pénétrantes, elles sont améliorées, on va donner encore plus de trafic à ces pénétrantes, et puis le sucre. Parce que c'est comme ça qu'on reçoit, c'est le sucre, on dit, ah mais attention, à l'intérieur du quartier, alors on va vous faire des rues résidentielles, des rues tranquilles, etc. Et on voit un petit peu ce que ça donne, y compris même sur les éléments de décor, comme la rue des Volantes, qui est vraiment quelque chose d'épouvantable à tout point de vue.
C'est vrai que lorsqu'on demande qu'un territoire de la ville soit libéré de la voiture, totalement, partiellement, etc., on sait que forcément, sans prendre des mesures globales, en fait, on reporte le problème chez les autres. Et nous, on n'était pas tout à fait, on n'était même pas sûr du tout que ce soit la bonne solution qu'interdire, par exemple, la circulation complète dans le centre-ville, sans que ça s'articule avec d'autres mesures. Maintenant, c'est vrai qu'on était, nous, en tant qu'association de quartier, amenés à parler de la circulation beaucoup à partir du problème des parkings et du prix l'évêque.
Pour conclure, dans l'idéal, pour le groupement d'habitants des Eaux-Vives, qu'est-ce que c'est qu'un quartier où on vivrait bien?
Il y a une sorte d'équilibration de certaines activités. Par exemple, ici, c'est vrai qu'on défend les logements. C'est vrai qu'il s'est aussi trouvé qu'on a défendu des commerçants, des petits commerçants, qu'on allait évacuer d'immeubles pour les remplacer par des bureaux. Une diversité par rapport à l'équilibrage entre des services, des commerces et du logement. Et je pense que quand on se bagarre contre, par exemple, l'implantation de grands ensembles, de grands ensembles plutôt luxueux, ou quand on se bagarre contre des parkings, contre des grands commerces, on se bagarre, je crois, contre un quartier qui deviendrait uniformisé par rapport à un type d'activité, par exemple type centre-ville, et plus d'habitants.
Notre bagarre n'est pas uniquement défensive ni conservatrice. C'est-à-dire que nous, on pense que le quartier doit se vivre, doit se développer, etc. Mais doit se développer non pas pour avoir plus de bureaux, plus de circulation, etc., mais aussi pour avoir plus, pour maintenir sa diversité et puis, de pouvoir se développer en maintenant ses diversités, c'est-à-dire d'avoir du logement, d'avoir des commerces, d'avoir, etc., un certain nombre d'activités.
Le groupe d'habitants des Eaux Vives et son comité se réunit tous les 15 jours à la maison de quartier des Eaux Vives et convoque un comité élargi où quiconque qui s'intéresse aux problèmes du quartier est invité. Et ce comité élargi est réuni toutes les 6 semaines. Si vous voulez être averti des réunions, écrivez au groupe d'habitants des Eaux Vives, École des Eaux Vives, 82 rue des Eaux Vives, 1207 Genève.
Watch the passers-by. Mirrored in their faces, I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? Treat you better, you're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Tears are just a lullaby. If there's any answer, maybe love can end the madness, maybe not. Oh, but we can only try. People gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. Yes, you're beautiful. You're beautiful as you feel.
Alors je précise juste que le groupe d'habitants des Eaux Vives se réunit tous les lundis, donc les lundis tous les 15 jours, à 20h30 à la maison de quartier. Alors justement, il y a un endroit aux Eaux Vives où beaucoup de gens se retrouvent, et Maria et Daniel, je crois, y vont souvent, c'est bien sûr la maison de quartier des Eaux Vives. Mon rêve secret aurait été de réaliser notre émission en direct depuis la maison de quartier, mais la technique impose ses conditions et heureusement, Valérie, animatrice à la maison de quartier, a accepté de venir au studio en direct ce matin. Alors Valérie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais peut-être pour commencer nous présenter un petit peu votre maison, parce que c'est vrai que c'est une adorable maison que vous avez comme maison de quartier.
Oui, alors tout d'abord géographiquement.
La maison de quartier est située au 56 de la route de Frontenay, dans un petit chemin qui s'appelle le chemin de la Clairière. C'est une maison qui est très belle, qui est rose avec des volets verts et qui a un caractère un petit peu de type familial comme ça. Bon, tout d'abord, peut-être un petit peu expliquer le type d'activité que l'on fait dans la maison de quartier. Bon, c'est un lieu public qui est au service des habitants du quartier. C'est une maison pour tous, pour tout le monde, pour tous les âges. et puis les animateurs dans la pratique travaillent en secteurs. Nous nous sommes divisés en secteurs et ces secteurs sont les secteurs enfants, c'est-à-dire qu'on s'adresse plus particulièrement aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées. Et on a également un secteur média qui concerne toute la population, puisqu'il traite de l'informatique, de la télématique, de la radio. Nous participons à Radio Tonique. Et puis, nous avons un journal qui est distribué à 13 500 exemplaires dans le quartier des Eaux Vives. Voilà pour les activités.
Donc, je vois qu'essentiellement, vous touchez presque toutes les classes d'âge, sauf une catégorie qu'on pourrait appeler la catégorie dite active, à peu près entre, disons, 20 et 55 ans. Il y a quand même quelques activités qui leur sont proposées. Viennent-ils à la maison de quartier, ces gens-là ?
Alors, en ce qui concerne la population active, les activités qui leur sont proposées sont des spectacles que nous organisons régulièrement et le café chromé du dimanche. Ce sont des petits déjeuners en musique chaque dimanche matin. Et là, on peut dire que les personnes du quartier se retrouvent. C'était un but de faire un peu cohabiter toutes les classes d'âge du quartier à ce moment-là. Et ça marche relativement bien.
Est-ce que les utilisateurs potentiels de la maison de quartier peuvent proposer d'eux-mêmes des activités de la maison, pour la maison ?
Tout à fait. Les animateurs organisent des activités à caractère récréatif ou culturel, mais il est bien clair que nous tenons à nous ouvrir au quartier et que nous tenons à connaître les envies et les besoins des habitants. Et pour ce faire, d'ailleurs, je les encourage à sortir de chez eux, à venir nous voir, à écrire des articles dans le journal. C'est tout à fait possible. Et d'autre part, j'annonce qu'on va avoir une assemblée générale de l'association le 1er décembre 87 à 8h15 le soir et que chaque personne a sa place dans la maison et que je les encourage à venir.
Vous allez aussi un peu dans la rue en quelque sorte. Vous ne vous contentez pas de rester dans votre maison de quartier à attendre que les gens y viennent, si j'ai bien compris.
On va dans la rue dans le sens où on participe effectivement à différentes associations aussi de quartier et qu'on a été à l'origine notamment de cette association qui s'est battue pour faire ouvrir des crèches et des garderies dans le quartier. Mmh. C'est un exemple.
Daniel, toi, tu y vas souvent à la maison de quartier ?
Oui, personnellement, j'utilise l'infrastructure de la maison de quartier des Eaux Vives pour les enfants surtout. D'une part, mes enfants y suivent des cours qui sont organisés, par exemple la poterie et auparavant l'initiation à la musique. À propos de ce cours, je me fais peut-être aussi le porte-parole de Maria. Nous regrettons peut-être qu'il n'y ait pas eu plus de continuité avec ce cours de musique en particulier. Mais
Valérie, tu sais pourquoi ?
Simplement parce que le professeur a dû partir et pour des raisons de permis de travail, nous n'avons pas pu l'engager et il est quelquefois difficile de trouver des gens qui font exactement le même travail. Voilà.
Oui, effectivement, c'est dommage parce que les enfants l'aimaient beaucoup, ils étaient peu nombreux et ils travaillaient très bien ensemble. D'autre part, je profite des locaux que la maison de quartier met gratuitement à la disposition des habitants du quartier pour les anniversaires des enfants. Et lorsque les enfants étaient plus petits, nous y avions organisé une petite garderie autogérée entre quelques mères et nous avons beaucoup apprécié d'avoir l'extérieur et l'intérieur de la maison de quartier à notre disposition.
Il semblerait que, par exemple, les adolescents soient quasiment en permanence à la maison de quartier.
Oui, donc la maison de quartier est ouverte, le bistrot est ouvert tous les jours dès 16h et ce jusqu'à 19h. Et les adolescents viennent régulièrement à la maison de quartier. Et nous sommes en pourparlers avec la ville d'ailleurs pour obtenir d'autres locaux situés dans le chemin de la Clairière aussi pour les adolescents.
Parce que ça pose des problèmes les ados à la maison
Disons
de quartier.
Disons qu'on a très peu de place dans la maison de quartier et qu'elle est vite surchargée à certaines heures.
Et il y aurait certaines catégories d'utilisateurs qui n'apprécient pas toujours la fumée, la grosse musique, etc. Ça pose des problèmes de cohabitation.
Disons qu'il y a un travail de coopération à faire de chaque côté. Et puis on fait comprendre aux adolescents qu'il faut moins fumer. Et puis les personnes âgées acceptent aussi quand elles voient les adolescents que bon, ils sont jeunes et puis ils font du bruit, etc. Il y a tout un travail à faire à ce niveau-là.
Est-ce que toutes les deux, peut-être, vous avez l'impression que toutes les couches sociales du quartier des Eaux-Vives viennent à la maison de quartier D'abord, peut-être, est-ce qu'il y a toutes les couches sociales qui sont représentées aux Eaux-Vives
Bon, moi, personnellement, j'ai l'impression que la maison de quartier fonctionne assez bien au niveau des enfants, des adolescents, des personnes âgées. Peut-être la classe manquante sera la classe active, mais ça, c'est assez normal. Disons, c'est des gens qui travaillent, qui ont moins de temps disponible. Nous allons assez souvent, enfin, de temps en temps, quand même, au Café Chromé le dimanche, que nous apprécions bien.
Moi, je ne sais pas, il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, il y a des extrêmes de situations sociales aux Eaux-Vives.
Oui, c'est clair, c'est un quartier tout à fait diversifié à ce niveau-là. Et dans les activités de la maison de quartier, on touche absolument toutes les classes sociales. Si on donne un exemple, le centre aéré d'été organisé pour les enfants, on touche en plus des enfants du quartier des Eaux-Vives, on touche les enfants de la rive gauche, Hermans, Corzy, etc. Et puis cette année, on a eu énormément de réfugiés et on a fait tout un travail d'intégration avec ces enfants-là.
Donc tu as l'impression quand même que la maison de quartier est un point de repère pour tous les habitants du quartier?
Oui, je pense, oui. Peut-être la catégorie la plus difficile à atteindre, ce serait la population immigrée, où là, il y a tout un travail à faire aussi pour les faire venir à la maison.
Lucide Beausonge, lettre à un rêveur.
Lettre à un rêveur qui s'ignore, qui jongle avec les foudres et les hackers, retourne coucher dans son décor. Quand le réel reprend ses droits, vendez-moi. Une île déserte, vendez-moi. Une île déserte. Pensait tout haut dans sa tête que la petite avait de quoi, qu'il pourrait profiter peut-être de la fille qui vient d'en bas. Avec ses yeux de vieux cochon, sexe rongé de phallocrate, qui voit en chaque femme le ballon. D'elle qui se tait, encore moins d'elle qui, de surcroît, en vertu d'une morale précaire, leur laisse volontiers tous les droits. Parlez-moi. Silence digne de mort vivant, quand la violence tient dans l'ombre, quand la violence tient bien son rang. Pendez-moi. J'ai presque oublié le nom de ces violeurs dont la minuscule se tient dans le fond de leur pantalon. Jongle avec les faudrailles des yakas, retourne coucher dans son décor quand le réel reprend ses rôles.
Il reste un endroit où j'avais encore envie d'aller, c'est le théâtre Amstramgram. Maria nous a dit combien ce lieu est important pour sa famille, je crois aussi pour vous Daniel et Valérie. Ce qui m'intriguait, c'était de savoir si le théâtre Amstramgram avait atterri aux Eaux Vives par hasard ou s'il avait choisi d'installer son théâtre pour enfants aux Eaux Vives. J'ai demandé cela à Dominique Caton, directeur, metteur en scène, comédien au théâtre Amstramgram.